Vous écoutez le débrief issu de l'épisode S804 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 4 avril 2024. Nous sommes toujours avec le journaliste et photographe Patrick Lévesque pour notre grande émission Masterclass dédiée à la couleur. C'est le moment du débrief qui vous est présenté cette semaine par IPLN.fr, le spécialiste photo et vidéo. Patrick, si on devait essayer de résumer et de synthétiser en quelques minutes les notions importantes à retenir de notre grande discussion. Première question. Pourquoi la gestion des couleurs est particulièrement importante à l'impression ?
Bah, elle est fondamentale, je dirais, parce qu'elle permet de pouvoir anticiper et prévoir, sous réserve d'un écran calibré, donc, ce que va donner notre image une fois imprimée sur un papier. Ça nous laisse le champ de décider si j'adopte direct l'impression sur mon papier, si je fais quelques modifications ou si je choisis de ne pas du tout imprimer parce que le papier ne va pas.
Est-ce que tu peux nous définir ce qu'est un gamut et ensuite un profil ?
C'est deux choses différentes. Hein. On a expliqué qu'un gamut, en fait, c'est un petit peu, pour le résumer, c'est l'ensemble des couleurs que va être capable de restituer un écran. Ça pourrait être vrai pour un scanner.
C'est propre à chaque périphérique.
C'est-à-dire que même deux écrans de la même marque et de la même référence vont des fois avoir un gamut un tout petit poil différent. Pour le papier, c'est vrai, c'est aussi la capacité qu'il va avoir à reproduire X couleurs en fonction de l'imprimante et des encres avec lesquelles il va être utilisé.
Et le profil ICC.
Alors le profil ICC, en fait, c'est ce qui va caractériser en fait justement ce gamut et les couleurs qu'il est capable de restituer, la fidélité, etc. Et ce profil, c'est ce qui va permettre à l'ensemble des éléments de la chaîne graphique de communiquer entre eux et d'échanger les informations pour avoir le résultat.
C'est le papier d'identité du périphérique en quelque
oui,
sorte.
Oui, c'est un petit peu, on va dire, une carte d'identité avec un petit traducteur dedans qui vont permettre de communiquer ensemble.
Comment est-ce qu'on choisit son espace de travail pour la post-production ?
Je crois que ça a été dit tout à l'heure, je ne sais pas si c'est par Volker ou Ronan, Sébastien Corloir. En fait, à la base, quand on est photographe, on ne choisit pas spécialement son espace puisqu'il est défini par les choix qu'on aura fait dans son appareil photo. Si on est en RAW, on n'a pas d'espace colorimétrique, on va s'en remettre déjà à ce que propose déjà le RAW du fichier et après au bon soin des logiciels de traitement de fichiers RAW. La notion d'espace colorimétrique, enfin d'espace couleur, en fait, d'espace de travail dans un logiciel, c'est simplement parce que quand on va partir de rien, il faut bien qu'on définisse dans quoi on va travailler. Donc on peut définir effectivement que Adobe RVB est un espace très très large et on va travailler dans un espace très très large pour avoir le maximum de couleurs à notre disposition. C'est-à-dire que si je choisis de travailler en SRVB, j'ai accès, on va dire, à moins de couleurs que ce que je l'aurais dans Adobe RVB. On pourrait choisir Profoto, on pourrait choisir d'autres, hein, mais voilà, en général Adobe RVB c'est le mieux disant et un des plus utilisés.
Comment s'assurer que what you see is what you get ?
C'est vrai et c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'en gros, je vois mon image à l'écran, calibrée, donc mon image me plaît, mais je sais que, par expérience, et tout le monde qui connaît la couleur pourra le dire, je suis certain que ce que je vois sur mon écran, c'est pas ce que j'aurais forcément sur mon papier. Le rôle de la gestion de la couleur, c'est de s'assurer justement que la couleur migre le mieux possible d'un de mes éléments à mon autre élément. Mais ce qui est vrai entre ce que je vois sur mon écran avec l'impression sur un papier brillant, sur un papier mat ou sur un papier fine art, ce qui m'intéresse justement, c'est d'avoir une cohérence dans ma colorimétrie, mais je sais que j'aurai forcément quelques petits écarts.
Et c'est là qu'intervient l'épreuvage écran.
L'épreuvage écran va permettre d'anticiper et de prévoir justement ça.
Pourquoi certaines couleurs sont non imprimables ?
Parce que aujourd'hui, si on prend justement les très grands gamuts, de toute façon même, justement, c'est pour ça aussi que... Alors, travailler avec un grand gamut permet de prévoir l'avenir, on va dire, quelque part. C'est-à-dire que j'ai des couleurs qui sont là...
C'est une sacrée phrase, là.
Non, mais...
mais c'est... t'as bien résumé.
Je le dis vraiment comme ça, parce que ça veut dire que ces couleurs, je sais qu'elles existent, elles sont là, je les ai localisées, on les voit, mais je ne les verrai pas sur mon écran parce qu'il n'est pas capable de le restituer, donc encore moins sur le papier, parce que lui, il ne pourra pas non plus les restituer. Mais un jour, bah, mon écran sera peut-être bien capable de me montrer ces couleurs-là, et bah, peut-être qu'un jour, j'aurai une 20 couleurs, et l'encre coûtera beaucoup moins cher, et il sera aussi capable, mes papiers seront aussi capables de restituer plus de couleurs. Donc voilà, il faut se dire que bah, plus on affiche des couleurs dans des gamutes étendues, il y en a certaines qu'on ne pourra pas forcément imprimer.
Aujourd'hui, c'est quoi les paramètres qui influent sur le nombre de couleurs reproductibles par un couple imprimante-papier?
Bah, tu te doutes bien qu'un papier, s'il est imprimé sur une machine à 4 couleurs, il va reproduire ce qui est capable de reproduire ces 4 couleurs sur ce papier, aussi bon qu'il soit. Si tu lui rajoutes 2 couleurs supplémentaires, un cyan light et un magenta light, bah, on augmente le potentiel et le champ des possibles. Donc, tac, il va pouvoir permettre d'en reproduire un petit peu plus. Il va pouvoir affiner un petit peu ses dégradés, etc., etc. Plus on va avoir de couleurs, plus on va étendre, en fait, la capacité du papier au maximum de ce qu'il pourra reproduire.
Dans le cas où tu vas confier tes fichiers à un labo spécialisé, comment tu fais, comment tu procèdes?
Eh ben, je dirais un petit peu comme je ferais si j'imprimais avec mon imprimante. La plupart des labos, alors peut-être pas chez Photodart, je ne sais pas comment ils fonctionnent parce qu'il expliquait qu'on ne lui demande pas souvent, mais si on prend Python Online, si on prend Whitewall, qui sont des labos que ces experts connaissent plutôt bien, tous les papiers sur lesquels on peut tirer, le laboratoire propose des profils. Alors évidemment, ce n'est pas pour les utiliser pour imprimer, puisque nous, on n'imprime pas, mais ça va nous servir justement pour l'épreuvage. C'est-à-dire que, alors là, on va sortir du cadre carrément de l'impression jetante, mais je veux imprimer chez Whitewall ou chez Picto sur un Fujiflex, hein, qui est un super beau papier Fuji, un papier hyper brillant, hyper claquant, etc. Bah, on a à dispo le profil, et ça va nous permettre, toujours dans mon logiciel de Photoshop ou Lightroom, bah je vais pouvoir anticiper et voir ce que ça rend imprimé sur ce papier. Voilà l'intérêt de ces profils-là.
Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le procédé qu'il faut mettre en place quand on veut réaliser soi-même ses propres profils ICC?
Bah, de toute façon, là, il n'y a pas 36 manières de procéder. Il va falloir procéder à l'acquisition d'un outil qu'on a évoqué tout à l'heure, qui est donc un spectrocolorimètre associé à un logiciel. Et là, on procède de la même façon en fait, qu'on le ferait avec un écran. C'est-à-dire qu'au lieu de mesurer des patchs sur l'écran, on va mesurer des patchs qu'on va avoir imprimés. Donc, on va déterminer le nombre de patchs. Hein. Ça se détermine dans le logiciel. On va les mesurer avec le spectro. Et une fois qu'on va avoir fini ce processus, comme avec un écran, c'est le logiciel qui se charge de calculer les écarts. Il va même nous donner plein d'indicateurs pour nous montrer ce que ça donnait avant, après, etc. Et là, pareil, le profil va s'installer au bon endroit via le logiciel. Et le profil, après, on l'utilisera dans notre logiciel pour imprimer ou pour épreuver à l'écran.
Et pour terminer, Patrick, au moment de l'impression, quand on met les mains dans le moteur de la gestion de la couleur, justement, quel type de moteur on choisit pour gérer toutes ces problématiques-là, et surtout, quel mode de rendu il faut privilégier quand on traite de la photo?
Bon, bah ça, déjà, je dirais que Volker a partiellement, même plutôt bien répondu à la question tout à l'heure. Mais alors déjà, le choix du moteur dans le logiciel, alors dans les logiciels de gestion de fichiers RAW, il n'y a pas. Ça, c'est le logiciel qui s'autogère. C'est plutôt dans Photoshop, notamment, où on va avoir accès à différents moteurs, donc Adobe, Apple. On aurait pu en avoir d'autres si on utilisait d'autres. Hein. Il y en a eu chez les logiciels qui servaient pour le prépress, qui n'existent plus maintenant. Moi, je conseille d'utiliser Adobe. Il est très, très bien. Il marche très, très bien avec Photoshop.
Ace, c'est ça.
Ouais. Et ça marche très, très bien. Ensuite, au moment de l'impression, donc... Volker a expliqué qu'il y avait plusieurs intentions de rendu. On sait que pour la photo, les plus conseillés, c'est ceux qui sont utilisés par 99% des photographes, c'est le mode perceptif et le mode colorimétrie relative. Alors évidemment, dit comme ça, ça paraît simple. Il faut effectivement essayer de voir, d'anticiper, visualiser, faire un test d'impression. Il vaut mieux faire un test d'impression pour se rendre compte des choses que faire plein de tirages et de se dire que c'est pas bon et gaspiller du papier et de l'encre. Mais déjà, on peut tester un petit peu. Après, il y a des particularismes. Moi, je prends mon cas, j'expliquais tout à l'heure. Moi, j'ai un travail où il y a énormément de couleurs et en fait, il y a beaucoup d'aplats finalement dans mes images. Et le mode colorimétrie absolue qui est plutôt commandé pour les arts graphiques, donc pour tout ce qui est un petit peu le packaging ou des choses comme ça, où il y a beaucoup d'aplats de couleurs. Moi, il est plutôt bien pour beaucoup de mes images. Donc, je l'utilise aussi, mais en toute connaissance de cause. Et j'ai fait des essais avant. Voilà, ça me permet de ne pas gaspiller, quoi. Mais en photo, en tout cas, en général, c'est perceptif et colorimétrie relative.
Merci Patrick pour toutes ces explications.